Merci, merci d'être avec nous. On est en osmose et aujourd'hui nous allons retrouver un conférencier de l'Université Rose-Croix Internationale, Daniel Benlolo, qui doit être avec nous. J'espère qu'il nous entend. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous ?
Mais ma foi, bien, et vous ?
Ah bah, oui, ça va, merci.
Avec alors... la musique entraînante, là, oui, ça va.
Oui, ben c'est vous écoutiez la radio en fait. On va parler de,
oui,
des cathares et de la spiritualité du catharisme. Alors c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, on en a beaucoup parlé. Mais alors avant d'en parler, j'aimerais vous poser une question parce qu'on me l'a beaucoup demandé quand j'en ai parlé ces jours-ci. Quelle est la différence entre les cathares et les templiers ? Est-ce qu'il y a une différence d'abord ?
Aucun rapport.
Aucun rapport, pourtant on les associe.
Aucun rapport. À part le fait qu'ils ont vécu à la même période, on n'a aucune trace de rapport entre cathares et templiers.
D'accord. Ben souvent, on les associe dans l'imaginaire, donc c'est pour ça que je me suis demandé s'il y avait un rapport.
Vous avez raison, il s'agit de l'imaginaire, oui.
Alors, on connaît quand même plutôt leur histoire, leur origine, mais vous avez envie de parler de leur spiritualité. Alors, est-ce qu'on a des recherches, des enquêtes sur cette spiritualité cathare ?
Ah oui, tout à fait. On a beaucoup vérifié effectivement de textes historiques qui nous donnent des renseignements vraiment dignes de foi sur les cathares. Mais en fait, il y a aussi des traités d'hérésiologues, donc des traités de leurs adversaires, des rapports d'inquisition aussi, parce que bien sûr, il faut en parler, qui vont nous éclairer sur leur histoire, mais aussi sur leur spiritualité. Et en étudiant et en comparant tous ces textes, leur doctrine se révèle alors être d'une très très haute portée spirituelle et mystique.
D'accord. Est-ce qu'on peut savoir d'où remonte leur tradition, leur doctrine ? Quelles sont les influences qui ont créé le catharisme ?
Alors, selon certains auteurs, leur tradition remonterait au manichéisme. Si effectivement, certaines de leurs doctrines sont issus du manichéisme et aussi du gnosticisme. Mais ce sont surtout les pratiques des Eukites ou Messaliens, un groupe qui est apparu en Syrie puis en Asie mineure au milieu du IVe siècle. Et ce sont eux qui ont surtout imprimé leur marque le plus durablement sur ce qu'allait devenir le catharisme. Alors, la pratique de ces Messaliens, donc le mot Messalien en syriaque veut dire « ceux qui prient ». Ils basaient toute leur technique sur la prière, et essentiellement la prière du Notre Père, qu'on appelle aussi l'oraison dominicale, pensant qu'en la répétant constamment, eh bien, le Saint-Esprit descendrait sur eux. Voilà. Et c'est donc uniquement à l'aide de cette prière qu'ils ont été connus. Et en fait, ils se sont déplacés depuis la Syrie jusque dans les Balkans et en Bulgarie, où on les retrouve au cours de la deuxième moitié du Xe siècle. Et là, ils furent connus sous le nom de Bogomil, qui veut dire en fait « ami de Dieu ». Et c'est depuis ces régions qu'ils parvinrent en Allemagne et aussi dans les pays rhénans, puis après dans le sud de la France, en passant par le nord de l'Italie. Et dans toutes ces régions, des noms différents leur furent attribués. Mais eux-mêmes ne se désignaient pas autrement que comme amis de Dieu, chrétiens. Voilà. Et c'est en fait un chanoine rhénan qui va leur attribuer le nom de cathare en 1163 parce que, disait-il, ils veulent être purs. Et en fait, le mot katharos en grec veut dire pur, désigne la purification. Et c'est effectivement c'est ce qu'ils recherchaient dans leur vie, c'est leur purification. Mais en réalité, eux-mêmes ne se désignaient jamais autrement que comme bons hommes, amis de Dieu, bons chrétiens ou bonnes femmes, puisque les femmes étaient admises aussi dans l'initiation cathare.
D'accord.
Voilà. Et en réalité, ce mot, c'est celui qu'on emploie le plus communément aujourd'hui, le mot cathare, et il est resté attaché, mais eux ne l'utilisaient jamais.
D'accord. Alors, on a des influences multiples. Est-ce que c'est un syncrétisme ou est-ce que c'est un véritable mouvement ?
Alors, effectivement, on pourrait penser que, compte tenu de toutes les connexions qui se sont greffées aux Messaliens du IVe siècle, donc en passant par tous les pays d'Europe, hein, de l'Est en l'Ouest, on pourrait le penser. Mais effectivement, c'est la qualification de chrétien qu'il revendiquait constamment qui doit attirer notre attention sur un mode de pensée qui est dûment établi, et jusqu'à nos jours d'ailleurs, hein. Qui cache en fait une toute autre réalité. Si vous voulez, on admet que généralement que la religion chrétienne se base dès son origine sur ce qu'on appelle une orthodoxie, c'est-à-dire la droite règle, la droite doctrine, celle qu'il faut admettre, et que tout ce qui s'en écarte, eh bien, devient hétérodoxe, c'est-à-dire différent de la doctrine, et sinon hérétique. Et si vous voulez, il y a une étude, quand on fait une étude attentive, on montre que les hétérodoxies, en réalité, ont précédé l'orthodoxie. Autrement dit, à partir d'un enseignement central, plusieurs approches ou plusieurs points de vue étaient acceptés à l'époque. Et c'est ce que symbolise, par exemple, la présence des 12 apôtres autour de Jésus. Ce sont 12 manières de comprendre un même enseignement. Mais s'il arrive que l'un des points de vue soit tenté de s'imposer et de prendre le pouvoir sur les autres, il va en arriver à affirmer son orthodoxie, c'est-à-dire affirmer qu'il est la droite règle, la droite doctrine, et il va taxer ses contradicteurs d'hétérodoxie, puis l'hérésie pour avoir refusé de se soumettre. Or, c'est ce qui s'est passé en 325, au cours du Concile de Nicée, lorsque les principaux dogmes catholiques ont été mis en place. Et c'est peut-être là l'origine de la volonté répétée dans ces mouvements de s'affirmer chrétien, mais alors au sens primitif du terme.
D'accord. Et on a des éléments concrets pour reconnaître le caractère spécifiquement chrétien des cathares?
Oui, on a donc parmi les rares textes, parce qu'il faut le dire, beaucoup de textes cathares authentiques ont été brûlés. Et les rares textes qui sont parvenus jusqu'à nous, dans ces textes, il y a des rituels qui permettent d'étayer cette revendication. En Orient comme en Occident, ces dissidents rejetaient toutes les inventions de l'Église qui étaient postérieures au IVe siècle, que ce soit au niveau théologique, liturgique, administratif et surtout moral. Pour eux, à l'époque, l'Église romaine, avec sa pompe et ses rites, était une falsification du vrai message du Christ. Au sein de la société du Moyen Âge, les rites cathares du XIIIe siècle étaient en fait le dernier témoignage d'un état de choses que le développement régulier du culte catholique avait amplifié, modifié ou abandonné à partir effectivement du IVe siècle. Autrement dit, un chrétien du IIIe siècle revenu au XIIIe siècle, aurait reconnu dans les rites cathares ceux de sa primitive Église, mais certainement pas dans ceux de l'Église romaine du XIIIe siècle. Et un
D'accord.
exemple de cette proximité des premiers temps se trouve dans l'identité entre le rite cathare qui leur était essentiel, qu'on appelait la consolation, et celui de la consécration des évêques catholiques fixée avant le milieu du XIIIe siècle, mais dont les formules au Moyen Âge avaient depuis longtemps été abandonnées par l'Église romaine et conservées dans les rites cathares.
Vous parlez du rite de la consolation. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous expliquer ce que c'est?
Alors, c'était vraiment le rite le plus important pour eux, et ils le considéraient comme un baptême, car en fait, ils ne reconnaissaient pas l'efficacité pleine et entière du baptême d'eau qu'on connaît encore de nos jours. Pour eux, seul le baptême d'esprit, tel que l'avait reçu Jésus, permettait de recevoir en soi l'esprit divin, cet esprit qui devait pénétrer l'âme de l'homme. Et ce sacrement était considéré à la fois comme un moyen de rédemption et une consécration de l'état de pureté, justement, atteint par le disciple après de longues périodes de jeûne et de méditation. Et une de ses particularités consistait en l'imposition des mains du ministre, c'est-à-dire du ministre officiant, sur le disciple. ce qui mettait ce disciple en contact avec l'Esprit de Dieu. Donc ce rite était conféré aux hommes, aussi bien qu'aux femmes, et ce, quel que soit le statut social.
C'était un rite d'initiation, en quelque sorte.
Exactement, un rite d'initiation. Et c'est par ce rite qu'ils aidaient, en fait, c'était là le but, hein, aider au lent et progressif développement de l'âme de leurs disciples.
Est-ce qu'on
et
peut...
ceux-ci, pour se rendre dignes, devaient se purifier donc, par une ascèse graduelle, par le jeûne et l'abstinence, et aussi et surtout par un désir sincère de perfection. Leur démarche spirituelle comprenait en fait trois stades de préparation. Auditeur, croyant et parfait. Mais le terme parfait, qu'on utilise encore aujourd'hui, n'a été en réalité utilisé que par les inquisiteurs pour ceux qu'ils considéraient comme étant des hérétiques parfaitement attestés, du latin hereticus perfectus. Mais ils n'avaient pas ce nom, ils n'utilisaient pas ce nom dans leurs étapes de préparation. Par exemple, l'auditeur était celui qui écoutait les prêches, mais sans manifester l'intérêt de s'engager dans une pratique qui pouvait s'avérer contraignante en termes d'obligation morale. Et le croyant, lui, va franchir le pas en se mettant sous la surveillance morale de la communauté des fidèles et dès lors débuter cette étape de préparation qui allait durer quand même de 1 à 3 ans et à l'issue desquelles lui était transmise l'oraison dominicale, parce qu'on ne transmettait pas la prière du Notre Père à tout un chacun. Il fallait une certaine préparation. Et puis plus tard, on va lui transmettre le baptême d'esprit, faisant donc de lui un bon homme ou une bonne femme, un ou un bon chrétien, une bonne chrétienne, selon leur terminologie. Et le consolament est donc l'expression extérieure, l'aboutissement d'un processus intérieur. À la suite de cela, les bons hommes ou les bonnes femmes se constituaient en communauté, vivant et travaillant dans le monde. Ils n'avaient rien donc de moines retirés hein, dans leur couvent, et tout en réalisant dans le monde une activité spirituelle auprès de leurs semblables.
Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Quelles étaient les doctrines des cathares dans l'ensemble, quoi, les grandes lignes?
Les grandes lignes, oui. Alors, ils croyaient effectivement en un Dieu unique, mais avec des nuances qui étaient propres à chaque école. Hein, je dirais l'école entre guillemets. Parce qu'il y avait effectivement différents groupes et il n'y avait pas de dogmatique. Et à partir du moment où vous pouvez exprimer une autre opinion, ben, elle était entendue. Alors, ils croyaient aussi donc en un Dieu unique, mais aussi dans l'existence de deux principes opposés. Et cette opposition apparaissait en fait pour eux dans la manifestation qu'est la matière, par laquelle l'âme de l'homme est plongée, selon eux, dans les ténèbres. Et de là, ben, elle doit péniblement émerger à la recherche de son salut par des réincarnations successives sur cette terre. Mais la libération de l'âme, donc des chaînes de la matière, constituait la base fondamentale de leur doctrine et de leur pratique. Comme je vous le disais, leurs enseignements n'étaient pas dogmatiques. Et le travail de leurs ministres ne consistait pas à imposer une foi aveugle, mais à convaincre les fidèles par le vivant exemple de leur amour du prochain. Et ça, c'était un point fondamental chez eux, de même que par l'exemple de leur pureté et de leur probité. La foi en leur doctrine était donc profonde et sincère, et ne pouvait pas être attaquée par donc, la froide raison de la dialectique. Elle n'avait pas sa source originale dans un savoir livresque, mais dans le cœur. Et c'est dans le cœur qu'ils puisaient une si grande force de résistance, car ils en ont eu besoin. Et par la concentration et la méditation, ils essayaient de communier avec les forces divines, et ce qui faisait que leur doctrine était véritablement inspiré du pur esprit de l'idéal chrétien primitif, avant en tout cas qu'il n'ait été déformé par certaines fausses interprétations des évangiles. Et parmi les textes cathares parvenus jusqu'à nous, certains concernent des aspects moraux, basés sur des passages des évangiles, et d'autres développent la notion de dualité. Toutefois, ce sont les commentaires de l'oraison dominicale du Notre Père, délivrés lors de ces rituels, qui révèlent vraiment des doctrines mystiques du plus haut intérêt.
Alors, le Notre Père, vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est quelque chose d'important pour eux. Il y a plusieurs commentaires. Alors, est-ce que c'est aussi important pour eux, ce Notre Père, ces commentaires, que ce fameux rituel de consolation dont vous nous avez parlé il y a quelques instants?
Oui, effectivement, parce que tout comme les Messaliens du IVe siècle, ils ne recevaient aucune autre prière. Ils traitaient même tout le reste de multitude de paroles, je les cite, hein, multitude de paroles qui ne sied qu'aux païens. Et cela découlait pour eux des recommandations que Jésus adressa à ses disciples avant de leur enseigner à prier. Et de plus, derrière sa brièveté, l'essentiel des enseignements de Jésus paraît y être résumé. Et c'est pour ça qu'il faisait précéder sa transmission d'un avertissement. Il disait, certes, cette oraison est brève, mais elle contient de grandes choses. Et c'est ainsi que leurs deux commentaires du Notre Père qui nous sont parvenus sont à la fois différents et complémentaires, et surtout, bien sûr, comme je le disais, d'une grande portée mystique.
D'accord. On peut définir les particularités de ces deux commentaires du Notre Père?
Oui, il y a beaucoup de particularités pour chacun d'eux, mais très brièvement, on pourrait dire par exemple que celui qu'on appelle le manuscrit de Florence, rédigé en latin, qui a été élaboré autour de 1235-1240, présente un commentaire du Notre Père assez succinct, mais avec toutefois plusieurs spécificités dont la plus importante est sans doute l'utilisation du texte grec original du Notre Père. Et dans cet original, la demande du pain, qu'on dit pain, donnez-nous notre pain quotidien, eh bien, pas du tout, c'est donnez-nous notre pain supersubstantiel. C'est en fait une demande d'un pain spirituel et non pas d'un pain matériel. Ils avaient vraiment d'autres préoccupations. Et c'était aussi pour eux l'occasion d'expliquer le sens mystique des paroles prononcées par Jésus durant la scène et qu'on rappelle souvent au cours des messes catholiques, bien sûr. Mais là, eux, on donne une explication tout à fait spirituelle et mystique. Et l'autre texte qui nous est parvenu, l'autre commentaire, est le manuscrit de Dublin, qui lui est écrit en provençal. Et là, par contre, il contient un commentaire extrêmement développé qui va établir un parallèle entre les sept demandes du Notre Père, hein, ceux qui ont l'habitude de le réciter peuvent très vite s'apercevoir qu'il y a en réalité sept demandes, et ces sept demandes, eh bien, ils les mettent en relation avec sept états de conscience qu'ils vont désigner comme étant des substances émanées du Père. Et tout le développement qu'ils vont enseigner, va être inscrit, ils vont expliquer que ces sept substances sont inscrites dans l'être comme étant un processus d'élévation de l'âme à travers, en fait, sept plans de conscience hiérarchisés auxquels l'âme peut s'identifier, parce qu'il y a une donnée constante dans leur texte, c'est l'affirmation qu'ils sont d'abord et avant tout une créature céleste composée d'une âme et d'un esprit avant d'être. Eh bien, un composé matériel, un corps.
Alors, vous nous parlez surtout de mouvements mystiques et nous, on pensait surtout que c'était une religion, le catharisme.
Effectivement, on classe souvent le catharisme comme une religion ou comme la dissidence d'une religion instituée. Bien qu'extérieurement, il ait pu apparaître ainsi, il a été en réalité un mouvement mystique et spirituel, comme il en a existé dans le passé et comme il en existe encore aujourd'hui. Si vous voulez, toutes les époques ont eu leur contraste de lumière et de ténèbres. Mais au cours de la période sombre de l'époque médiévale, les efforts sincères des cathares vers la libération de l'esprit montrer le chemin de la pure spiritualité. Ont aussi témoigné par leur vie, leurs vertus et leurs valeurs que le processus de l'évolution spirituelle a continué son inéluctable mouvement à travers les âges, comme il le fait encore certainement aujourd'hui.
D'accord, bah on a fait un petit peu le tour de ce grand dossier, mais je pense qu'on pourra en parler des heures et des journées entières. J'imagine qu'il y a eu des tas de bouquins
sur. On va rentrer en détail, oui, sans doute. Oui.
Vous présentez des conférences sur le thème de la spiritualité du catharisme pour l'URSSI?
Oui, tout à fait. La prochaine se fera, je crois, au mois de novembre à Quimper. Donc voilà, mais j'en fais, oui, effectivement.
D'accord, bah écoutez, on essaiera de vous retrouver à Quimper au mois de novembre pour en savoir un petit peu plus. Sinon, je pense qu'on peut aller sur le site rose-croix.org pour avoir quelques informations et d'autres détails sur le mouvement, sur l'ordre mystique de la Rose-Croix. Et puis sur
de la Rose-Croix.
L'université Rose-Croix internationale et surtout vos travaux. Merci, monsieur Benlolo.
Mais c'est moi qui vous remercie et bonne journée à vous.
Merci, au revoir.